This is Radio Free Europe. 9
minutos en Colombia.
محليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هادو جلوبي.
From CNN Radio 7.
راديو داتشا.
O Brasil quer se vingar.
Turquia fotora. Slava Russia.
Rebonsoir et bienvenue un jour dans le monde aujourd'hui dans le cadre de cette journée spéciale que vous propose la rédaction de France Inter. Le thème, c'est le climat et particulièrement la dramatique question de la montée des eaux. Trois exemples, trois reportages ce soir. Au Bangladesh, où la catastrophe est déjà là. Aux Philippines, où la réponse à la montée des eaux est gérée dans une forme d'improvisation. Beaucoup de choses restent à faire, on le verra. Et puis enfin, nous partirons aux Pays-Bas, le pays des digues et des polders, dont une partie du territoire est et a toujours été au-dessous du niveau de la mer. Voilà pour le programme, mais pour commencer, direction le Yémen.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
Un véritable carnage, au moins 142 morts dans une série d'attentats à Sanaa, la capitale du Yémen. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Nicolas.
Service étranger de la rédaction de France Inter, que sait-on de ces attaques ?
Des attentats suicides commis dans la capitale yéménite contre deux mosquées où priaient des miliciens chiites houthis, ceux qui ont pris le pouvoir à Sanaa il y a deux mois. Le premier kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur de la mosquée Badr, dans le sud de la ville, et un deuxième a actionné sa charge explosive devant le bâtiment au moment où les fidèles tentaient de s'enfuir. Parmi les victimes figurent l'imam de cette mosquée et un responsable religieux de la milice. Une autre attaque suicide s'est produite dans une mosquée du nord de la ville, presque au même moment, selon le même mode opératoire. Enfin, un quatrième attentat a été perpétré cette fois dans le nord du Yémen, dans le bastion de la milice chiite. Mais là, le kamikaze qui s'est fait sauter a été empêché d'entrer dans une mosquée par les forces de sécurité et il n'y a pas eu d'autres victimes. Des explosions qui auraient donc fait au moins 142 morts et 350 blessés au total. Elles ont été revendiquées par l'organisation État islamique.
Bertrand, le pays est quasiment coupé du monde. De nombreux pays ont fermé leurs ambassades sur place, dont la France.
Oui, le pays est devenu beaucoup trop dangereux, notamment pour les Occidentaux, qui effectivement, pour la plupart, ont fermé leurs ambassades, ainsi que les États-Unis et l'Arabie Saoudite. La France a demandé à tous ses ressortissants de quitter le Yémen. Vous savez qu'une Française, Isabelle Prime, a été kidnappée à Sanaa le mois dernier. Le pays aujourd'hui est devenu l'un des moins sûrs de la planète.
Et il est même en voie de dislocation, dit l'ONU.
L'État yéménite, déjà fragile, a effectivement volé en éclats le 20 janvier dernier après la prise du palais présidentiel à Sanaa et la fuite du président Hadi qui a dû se réfugier à Aden dans l'extrême sud du pays où il n'est même pas en sécurité puisque sa résidence a été visée hier par un raid aérien. Les Houthis, mouvement venu du nord, contrôlent désormais une partie du pays avec, dit-on, l'aide de l'Iran chiite. Mais ils ont des ennemis redoutables, notamment les forces locales de l'organisation État islamique et aussi Al-Qaïda, mouvement sunnite. Tous les ingrédients d'une guerre civile sont donc réunis au Yémen.
Merci Bertrand Galichet. Plus d'informations sur cette vague d'attentats au Yémen dans le journal de 19h.
Un jour dans le monde sur France Inter.
Une journée spéciale consacrée au climat, je vous le disais, avec une attention particulière à la question de la montée des eaux. Trois reportages au Bangladesh, aux Philippines, aux Pays-Bas et ici en studio, Stéphane Algat. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être au micro de France Inter. Vous êtes économiste à la Banque mondiale après 10 années de recherche en économie de l'environnement. Dites-nous exactement ce qu'est cette discipline.
L'économie de l'environnement, c'est juste essayer de comprendre l'économie qui ne soit pas hors sol. L'économie dans son environnement, dans les contraintes que nous propose le monde, les ressources naturelles, mais aussi le climat. Donc c'est vraiment tout ce qui vise à comprendre l'activité des hommes et ce qu'on produit dans l'environnement, et en essayant de produire mieux et d'avoir une qualité de vie meilleure grâce à ça.
En proposant des modèles économiques, précisément, en essayant faire en sorte que la théorie puisse déboucher sur des pratiques concrètes dans les différents pays où les enjeux climatiques se posent.
L'objectif de l'économie comme discipline, c'est toujours d'essayer de proposer des solutions pour vivre mieux et pour produire mieux. Et être aveugle sur les questions d'environnement n'est évidemment pas une bonne idée pour avoir une une qualité de vie qui soit optimale. On le voit bien en permanence aujourd'hui, l'environnement dans lequel on vit, c'est une partie de notre bien-être. L'objectif, c'est de le prendre en compte dans nos politiques.
Vous avez travaillé également sur les catastrophes naturelles en Europe après la tempête Xynthia, c'était en 2010. Aux États-Unis après l'ouragan Katrina, comment vous parvenez à conjuguer le temps très long, par exemple, du réchauffement climatique et ces moments de catastrophe absolue?
C'est toute la difficulté. Quand on demande à des décideurs locaux de faire de la gestion des risques, on leur demande de réfléchir à un événement qui se produira peut-être et plus probablement après qu'ils aient quitté leur bureau et que quelqu'un d'autre soit à leur place. Mmh. On leur demande de faire des choses pour éviter des crises, alors qu'une crise qui ne se produit pas, finalement, on ne la voit pas, on n'en parle pas. Donc c'est vraiment extrêmement difficile de trouver les bonnes incitations pour faire en sorte que ce soit pris en compte. Et ça explique pourquoi les crises sont si importantes. On veut les utiliser pour essayer d'éviter la suivante.
Alors, vous restez évidemment avec nous tout au long de cette émission. On va partir pour une première étape au Bangladesh, où la montée des eaux est déjà une réalité. Bonjour Julie Pétry.
Bonjour.
Jusqu'à 20% du territoire sera sous l'eau en 2050, avec potentiellement 50 millions de réfugiés climatiques.
Oui, c'est dans seulement 35 ans. Ce n'est plus très loin de nous maintenant. Ce que vous entendez là, c'est une chanson sur l'eau. Elle dit « Allah nous amène les nuages, Allah nous amène l'eau ». Et c'est peut-être la première chose qu'il faut comprendre quand on parle du Bangladesh. L'eau ici est source de vie, pêche, culture, riz. Les habitants vivent avec des fleuves gigantesques, le Gange, le Brahmapoutre. Les pluies de mousson sont désirées, espérées. Et sauf que l'eau, aujourd'hui, est plus que jamais source d'inquiétude. Les fleuves vont gonfler avec la fonte des neiges de l'Himalaya. Les pluies de mousson sont en train de se dérégler. Les cyclones sont de plus en plus fréquents et surtout, au sud, sur la côte, le niveau de la mer monte rapidement en ce moment. Le sel s'incruste dans les terres, brûlant les cultures, contaminant aussi les points d'eau douce. Même Chittagong, la deuxième ville du pays, 3 millions d'habitants se retrouvent en partie sous l'eau.
Là, c'est le bloc de pierre qu'on a installé pour empêcher l'eau de rentrer à l'intérieur de la maison.
Joachim Salam est photographe. Là, il nous fait entrer dans sa maison qui est inondée chaque année, maintenant depuis 2009.
C'est de l'eau liée au rythme des marées, ce n'est pas de l'eau de pluie. Et quand ça arrive, cette eau va et vient, elle stagne au moins 5 heures, deux fois par jour avant de se retirer. Ça veut dire 10 heures par jour. Elle est très sombre, elle est boueuse, elle sent mauvais, elle a un goût salé. J'ai juste trempé un doigt pour voir. Et j'ai réalisé que c'était une conséquence du réchauffement climatique, de la montée du niveau de la mer. Donc j'ai décidé de faire une série de portraits photos des gens qui subissent ces inondations.
Là, c'est votre femme ?
Oui, c'est ma femme.
Sur toutes ces photos, on voit des personnes qui ont de l'eau à peu près jusqu'à mi-mollet.
Les gens se tiennent dans leur maison ou juste devant leur maison qui est sous l'eau.
Vous réfléchissez à partir ?
Exactement. Si ça continue comme ça, si on n'arrive pas à protéger la maison, oui, on réfléchira à partir tôt ou tard.
Oui, mais la question, Julie, c'est partir pour aller où ?
Oui, parce que le Bangladesh est un pays extrêmement peuplé. C'est l'un des plus denses au monde. Plus de 150 millions d'habitants sur un territoire qui est 5 fois plus petit que la France. Il n'y a plus de place. Et pourtant, des centaines de milliers de réfugiés climatiques, c'est une estimation, s'entassent déjà à Dhaka, capitale surpeuplée, capitale tentaculaire. On les retrouve surtout dans les bas-fonds de la ville, dans les bidonvilles.
Je m'appelle Mohamed Abdour Sater, je viens du district de Shatkira, j'ai 49 ans. Je suis ici depuis 2009, quand le cyclone Aïla a frappé ma côte. J'étais pêcheur, j'avais un bateau et j'employais plusieurs personnes, j'ai tout perdu. Je ne pouvais plus nourrir mes 4 enfants. Je n'avais pas d'autre solution que de devenir conducteur de rickshaw ici.
Ici, on est dans un garage de rickshaw. C'est là où on répare ces taxis à 3 roues qui sont très utilisés ici. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu les environs ?
Oui, nos vélo-taxis sont garés en bas de cette maison de fortune sur pilotis. Les hommes campent presque à l'air libre au-dessus. C'est vraiment une vie difficile, c'est très fatigant de transporter des gens 13 à 14 heures par jour par cette chaleur. Et le soir, quand on rentre ici, Regardez, c'est minuscule. On est les uns sur les autres. Et puis c'est très sale. Il n'y a pas assez de toilettes. Les moustiques sont partout. Tout est un problème ici. C'est inhumain de vivre comme ça.
Jusqu'à 50 millions de réfugiés d'ici 2050, si rien ne change, c'est ce qui risque de se passer si on ne ralentit pas le rythme du réchauffement climatique.
Oui, c'est ce que disent plusieurs instituts sur place. Et face à cette situation inédite, le général Munirouzzaman, ancien cadre de l'armée du Bangladesh, s'est reconverti. Il préside aujourd'hui l'Institut d'études sur la paix et la sécurité du Bangladesh.
The world has never, ever...
Le monde n'a jamais, jamais eu à gérer un si grand nombre de réfugiés climatiques. Et notre pays n'a pas l'espace pour les absorber. Et comme vous le savez peut-être, la frontière entre l'Inde et le Bangladesh a été entièrement fermée, clôturée par l'Inde. Les gardes-frontières tuent déjà régulièrement les clandestins, donc l'Inde résistera à toute tentative de passage de déplacés ou de réfugiés climatiques.
Il y a cette grande conférence à la fin de l'année à Paris. Qu'est-ce que vous en espérez ?
Vous savez, je fais partie de ces gens qui pensent qu'on a dépassé le stade où on peut se blâmer les uns les autres. On est tous dans le même bateau, alors soit on navigue ensemble, soit on coule ensemble.
Et les experts du climat dans ce pays disent vouloir plaider pour un accord sévère à Paris en décembre. 40% de réduction des gaz à effet de serre des pays développés en 2020, 90% en 2050. L'économiste Kwasi Kolikzaman Ahmad, en pointe sur le sujet, il sera à Paris cet hiver, aimerait aussi qu'un statut de réfugié climatique soit vraiment reconnu.
Climate refugee. Is not acceptable to many people internationally.
Ce statut de réfugié climatique n'est pas accepté par beaucoup de personnes au niveau international, parce que le mot « réfugié » renvoie à des mouvements transfrontaliers. Et ça, les pays qui auront peut-être à les accueillir n'en veulent pas. Si on parle, en revanche, de déplacés climatiques, ça veut dire seulement qu'ils ont quitté leur terre, mais pas forcément leur pays.
Et l'ironie dans cette histoire, c'est que le Bangladesh émet peu de gaz à effet de serre en comparaison avec le reste du monde. Il subit, sans vraiment provoquer, le changement climatique. Mais il y a aussi du travail en interne pour lutter contre la pollution qui est parfois extrême au niveau des terres, des rivières et de l'air.
Julie Pietri, merci. Restez avec nous, bien entendu. Un mot de réaction à ce que vous venez d'entendre, Stéphane Algat.
La première réaction, c'est cette idée que l'économie de l'environnement, c'est pas une question de luxe pour pays riches. On a tendance beaucoup à le présenter comme ça en Europe, aux États-Unis. On voit bien, en entendant ces témoignages, que c'est vraiment une question de développement, une question de réduction de la pauvreté. Et si une institution comme la Banque mondiale, dont l'objectif est d'éradiquer la pauvreté à l'horizon 2030, s'intéresse au changement climatique, c'est pas pour des questions environnementales, c'est bien parce que ça affecte la capacité de ces gens qui vivent dans ces pays à sortir de la pauvreté et à avoir une vie dans des conditions qui soient décentes et acceptables.
Que pensez-vous du concept absent, en l'occurrence, de réfugiés climatiques ?
C'est un sujet qui attire beaucoup d'attention parce que l'immigration, c'est un sujet très controversé, etc. Il faut quand même garder en tête que l'essentiel des gens qui sont déplacés pour des raisons liées à des catastrophes naturelles le sont à l'intérieur des pays, que c'est avant tout des zones rurales vers les zones urbaines et que le défi, c'est plutôt d'être capable d'accueillir, notamment dans les villes, dans des conditions décentes et non pas dans des bidonvilles, les gens qui émigrent des campagnes. Donc je pense que c'est un sujet qui est important, notamment pour quelques pays, mais il ne faut pas en faire le point de concentration parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire qui sont beaucoup moins controversées et sur lesquelles on voit très très bien ce qu'on peut faire tout de suite pour améliorer les choses. Une petite réaction aussi, parce que aujourd'hui on a tendance à beaucoup mettre sur le dos du changement climatique. Il faut bien voir que si dans un pays comme le Bangladesh, aujourd'hui, il y a une montée des eaux, c'est aussi pour des raisons locales, et notamment parce qu'il y a ce qu'on appelle la subsidence, donc le sol qui se tasse, et c'est lié à la dynamique du bassin, et lié à l'artificialisation des rivières et à l'urbanisation. Donc ces pays-là ont aussi des choses à faire en interne, et c'est vraiment du bon développement, un développement qui soit durable et sont pas seulement à la merci de ce qui se passe dans le reste du monde, même si évidemment la vulnérabilité au changement climatique est très importante.
Julie ?
Oui, sur la côte sud, notamment sur l'île de Gaboura dont on parle parfois, qui est une île avec 40 000 habitants, il y a eu plusieurs effets. Donc ils ont eu des cyclones, ils cultivaient beaucoup de riz, ils ont commencé pour des raisons économiques à se mettre à la culture de crevettes parce que ça rapportait plus d'argent. Ils ont introduit encore plus d'eau salée dans les terres. Et dans les faits, ça a aggravé en fait la situation. Et aujourd'hui, ils ont énormément de problèmes sur cette île pour trouver de l'eau douce, par exemple.
Est-ce que des catastrophes de cette nature sont réversibles? Ou est-ce que désormais, il va falloir penser le monde autrement, penser les pratiques humaines, les pratiques urbaines, les pratiques agricoles différemment?
Je crois que l'une des choses qui a vraiment changé, c'est la concentration de population. Avec l'explosion de la population mondiale et la concentration dans des grandes villes, on parlait de Dhaka, mais en Asie du Sud-Est, le nombre de grandes villes côtières comme ça, il y en a énormément. Et ça, c'est nouveau parce que tout d'un coup, on se retrouve avec des catastrophes qui peuvent toucher 5 millions, 10 millions de personnes d'un coup. Et ça change complètement l'ampleur du problème. La gestion de l'urgence, la gestion de la crise est complètement différente. Et on arrive un peu aux limites de ce qu'on sait faire en gestion de crise. Il faut se rappeler que la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, c'est 500 000 personnes touchées dans l'un des pays les plus riches du monde. Essayez d'imaginer la même chose dans un pays à bas revenus comme le Bangladesh, avec tout d'un coup 5 millions de personnes qui peuvent être touchées d'un coup. Au Pakistan, en 2010, les inondations, il y avait plus de 15 millions de personnes qui ont été affectées. Donc l'ampleur des crises est gigantesque. Ce qui demande vraiment cette balance entre beaucoup plus de prévention que ce qu'on fait aujourd'hui et aussi de renforcer les moyens de réaction rapide dans ces situations de crise. Et la communauté internationale a un rôle à jouer pour les deux. Se préparer en amont, mais aussi une solidarité pour une action très rapide pour éviter les impacts secondaires sur la santé, que les enfants soient déscolarisés, etc. Il y a énormément de choses à faire dans ces deux volets.
Elle est mobilisée, la communauté internationale, dont on voit bien qu'elle est introuvable sur tant de sujets internationaux.
Alors, je reviens de Sendai, au Japon, pour une conférence internationale sur la gestion des risques, au cours de laquelle les pays du monde, je n'ai plus le chiffre exact, un peu plus de 180, ont pris des engagements, des engagements pour essayer de réduire les pertes humaines, les pertes économiques, et aussi des engagements en termes de collaboration internationale, que ce soit pour financer la prévention, et aussi pour essayer de déployer des moyens d'alerte. Parce que l'une des choses qui n'était pas mentionnée dans le reportage, c'est que le Bangladesh, c'est un cas d'école sur ce qu'on peut faire en termes d'alerte pour sauver des vies. Et dans les années 90, un cyclone au Bangladesh, c'était des dizaines de milliers de morts. Aujourd'hui, les choses se sont beaucoup améliorées grâce à des systèmes relativement simples d'alerte. Donc on fait quand même des progrès. On parle toujours des problèmes, mais il faut quand même reconnaître en termes d'alerte et de vie sauvée, le Bangladesh, c'est un exemple très positif.
Allez, deuxième exemple parmi les pays les plus exposés à ces inondations, ces tempêtes tropicales, on trouve également tout en haut de la liste les Philippines, où vous vous êtes rendu il y a 2 semaines, Olivier Poujad. Bonsoir.
Bonsoir. Chaque année en moyenne, effectivement, une vingtaine de typhons, de storm surge, ces gigantesques vagues d'inondations frappent de plein fouet l'archipel et ses 37 000 km de côte le long desquels on retrouve évidemment les habitants les plus démunis.
Plusieurs millions de personnes sont concernées, installées sur la plage à la merci de la montée des eaux. Un bord de mer défini, Olivier, depuis 2010 par le gouvernement philippin comme une zone à risque.
Oui, et pourtant, au premier coup d'œil, l'endroit semble plutôt paradisiaque. Eau turquoise, sable blanc, mais les arbres qui sont encore debout témoignent de la violence des cyclones qui viennent balayer cette région. Leur tronc a été brisé net. L'urgence est donc de mettre à l'abri les familles qui vivent ici, à Dambantayan, au nord de l'île de Cebu. On est en plein cœur de l'archipel des Philippines. Les transférer, en fait, à l'intérieur des terres où apparaissent des projets de relogement très différents les uns des autres. Certains, comme celui d'Edilberto Florentino, misent tout sur l'innovation technique. Cet architecte de renom nous présente son concept d'hypertoit, une toiture censée résister aux typhons les plus violents.
L'hyperbolique paraboloïde repose avant tout sur sa forme triangulaire. Le triangle est une des formes géométriques les plus solides. Ensuite, vous remarquerez que la surface est doublement incurvée, il n'est pas plat, c'est comme un dôme. Et donc la force du vent est repoussée dans l'autre sens. En ce moment, nous sommes en pleine recherche pour aider les gens qui n'ont quasiment rien pour résister aux inondations. On se penche sur le concept de maison flottante, mais pas comme à l'étranger où elles sont fabriquées avec du polystyrène extrudé. C'est pas très écologique. Nous, on utilise de la paille de riz, du bambou ou du ciment léger.
Alors, toutes ces solutions innovantes sont très séduisantes, mais elles coûtent la plupart du temps très cher. Et si l'on poursuit notre chemin un peu plus au nord vers un autre site de relogement, on constate que la zone à risque, située entre la plage et la route, est totalement surpeuplée. Une zone que nous décrit Léa Gauthier, chargée de projet à la Croix-Rouge.
Cette route, elle borde complètement la côte, elle est vraiment sur la plage et on a énormément d'habitations sur cette plage, faites de tôles, d'amacanes, donc de bambous tressés, etc. et qui sont vraiment quasiment les pieds dans l'eau sur la plage.
Et qui ne devraient pas être là.
Voilà, ici, ces 40 mètres-là de plage, c'est vraiment la danger zone, la no-build zone du gouvernement philippin. Ça existait déjà avant Haiyan, ça a été vraiment répété après la survenue de Haiyan parce que ces côtes sont très très dangereuses. Il n'y a rien qui protège ces gens qui vraiment sont au bord de la mer. On est vraiment au ras de l'eau. Beaucoup de familles de pêcheurs qui, bien sûr, ont envie de rester près de la mer parce que c'est de là qu'elles tirent leurs revenus, leurs moyens d'existence, leur pain quotidien presque.
Et c'est là donc que vit Augustine Braza. Il est installé depuis 40 ans sur cette plage. Il est pêcheur et vient d'accepter d'être relogé à plusieurs centaines de mètres dans le lotissement construit par la Croix-Rouge. Les rafales à plus de 300 km/h du dernier super typhon Haiyan, il y a un an et demi, ont fini par le convaincre.
C'est pour la sécurité de ma famille que je veux changer. Je sais qu'il y aura d'autres cyclones, sûrement plus violents, et je veux m'y préparer. Depuis le passage du super typhon Haiyan, je ne me sens pas bien, les vents soufflaient tellement fort, j'avais jamais vécu ça. Je veux mettre ma famille en sécurité maintenant. La seule qui va rester, c'est ma mère. Elle est née ici, elle veut mourir dans cette maison.
Les choix sont parfois douloureux, hein, Nicolas. Comment ne pas déraciner les gens, les couper de leurs ressources? C'est la préoccupation de cette ONG qui ne se concentre pas uniquement sur la construction de maisons en béton, mais tente d'aménager un site où les habitants pourront également cultiver, élever du bétail ou diversifier leurs activités.
Et malgré ces efforts, certains d'entre eux, certains habitants, sont encore réticents à l'idée de partir.
Essentiellement pour deux raisons que nous expose Jocelyne Noulia. Elle vit avec ses 8 enfants dans un abri fait de tôle et de bois flotté.
J'ai refusé, premièrement parce que toute notre vie est ici. J'aime cet endroit. Regardez comme c'est beau. C'est vrai que c'est beaucoup plus dangereux que quand j'étais petite. Il y a de moins en moins de sable et l'eau se rapproche. Mais mon mari est pêcheur. Il ne veut pas être loin du bateau. Et puis le gouvernement nous a dit que si l'on acceptait d'être relogé par la Croix-Rouge, nous n'aurions plus droit aux aides.
Un message du gouvernement assez ambigu, hein. Choisir entre l'aide sociale et le projet de relogement par une ONG, on a du mal à y voir clair dans ce discours. Aux Philippines, les initiatives de relogement existent, qu'elles soient publiques, privées ou humanitaires, mais tout ça n'est pas coordonné au niveau national. Dernier problème, l'espace. Des projets comme celui de la Croix-Rouge sont encore trop rares et Léa Gauthier nous explique pourquoi.
C'est rare parce que la terre aux Philippines, les terrains sont peu disponibles. Au final, il y a quelques grandes familles qui possèdent la plupart des terrains aux Philippines. L'administration fait aussi qu'il est parfois compliqué d'avoir la main sur tous les documents administratifs et légaux nécessaires pour construire sur un site. Donc, c'est pas si facile que ça du tout de trouver des sites pour des projets de relogement tels que ceux-ci, surtout pour des familles qui sont très vulnérables. Donc, il faut que ce soit des sites qui soient donnés. Acheter la terre, c'est compliqué aussi. C'est vraiment la disponibilité de la terre qui est un problème.
Donc on a d'un côté une danger zone définie par le gouvernement philippin qui est au bord de la mer, dans laquelle beaucoup de gens vivent, et d'un autre côté, ils ont nulle part où aller.
C'est vrai que c'est un paradoxe, et c'est toute la complexité de la situation à laquelle on fait face et à laquelle les Philippins font face. Ouais.
Les Philippines restent pourtant l'un des pays les plus impliqués pour faire face à ces problèmes de relogement. Une autorité nationale de l'habitat a été créée avec au total 80 millions d'euros de budget. On est encore loin du compte, mais ce pays en voie de développement fait partie de ceux qui sont sortis de l'opposition nord-sud dans les négociations sur le climat, défendant une voie plus consensuelle où chaque État doit accepter de faire face à ses responsabilités. Ce sera peut-être l'une des clés de la conférence COP21 à la fin de l'année ici à Paris.
Olivier Poujade, merci, restez également avec nous. Même question Stéphane Algade, quelle réaction à ce que vous venez d'entendre? On voit bien déjà qu'on est dans une situation différente par rapport à celle du Bangladesh, qui suscite elle-même ses propres problèmes. Mais première réaction.
Je pense que vous avez vraiment posé les bonnes questions. La question c'est de comprendre pourquoi est-ce que les gens sont dans ces zones dangereuses. Parce que on a parfois l'impression qu'ils ne savent pas. Mais en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé sur Bombay en Inde. Les gens qui vivent dans les zones à risque savent très bien. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils font un arbitrage tout à fait raisonné entre les opportunités que ça peut leur apporter d'aller s'installer dans ces zones dangereuses et le risque. Et si on veut que les gens habitent dans des zones sûres, la solution, ce n'est pas d'essayer de les empêcher de venir, parce que c'est extrêmement difficile à faire. La solution, c'est plutôt une approche qui soit positive, qui est de dire on sait que la population grandit, qu'il y a un exode vers les villes. La question, c'est d'offrir aux gens des opportunités de vivre dans des zones sûres, tout en ayant accès aux opportunités, c'est-à-dire les emplois. Mais dans les questionnaires qu'on pose à Bombay, les gens parlent énormément de l'accès aux soins de santé, par exemple, vivre près des hôpitaux, les bonnes écoles pour leurs enfants. Et donc, on peut très bien imaginer, plutôt qu'une approche très négative de la gestion des risques, disant il faut des zones noires, des zones à risque dans lesquelles on empêche les gens de venir, plutôt proposer aux gens de développer de nouvelles zones avec les services qu'ils recherchent, avec les transports pour leur permettre d'accéder aux emplois et d'essayer de diriger le développement, notamment urbain, vers les zones sûres avec une approche positive qui est plus facile à vendre que des zones noires ou des zones rouges ou des zones
strictement punitives. Comment percevez-vous l'étonnante contradiction qu'on perçoit bien dans le reportage entre l'action des ONG et l'action du gouvernement ?
Alors, je suis un peu étonné parce que si vous parlez aux gens qui font de la protection sociale aujourd'hui, l'une des premières choses qu'ils vont vous dire, c'est qu'il faut que la protection sociale et les aides ne coincent pas les gens soit dans des activités, soit dans des zones qui ne sont pas les bonnes et où ils n'arriveront pas à sortir de la pauvreté. Et on parle beaucoup de bénéfices portables, c'est-à-dire de permettre aux gens de prendre ces aides avec eux s'ils changent d'activité professionnelle ou s'ils décident de migrer dans une zone qui offre plus d'opportunités. Donc, je ne connais pas ce cas en particulier. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans la façon dont on crée les systèmes de protection sociale, on essaye de faire extrêmement attention à éviter ce genre d'effet dans lequel on aide des gens, mais en les maintenant dans une position où ils sont peut-être un petit peu mieux, mais il n'y a pas de perspective d'une vraie sortie de la pauvreté. L'un des enjeux, par exemple, aujourd'hui, de la reconstruction après les catastrophes, c'est d'éviter de donner des aides qui font que les gens sont obligés de reconstruire à l'endroit où ils vivaient. On veut que les gens puissent prendre l'aide et aller reconstruire plus loin, dans une zone plus sûre. Donc c'est beaucoup de choses qui sont aujourd'hui vraiment au centre de la façon dont on pense la reconstruction et dont on pense l'aide sociale. Donc, ça ne veut pas dire que dans un cas ou dans un autre, il n'y ait pas des effets pervers, mais vraiment, c'est quelque chose qui aujourd'hui est dans la tête des gens qui travaillent sur ces sujets.
Ça n'est plus de l'improvisation, donc. On a dépassé depuis longtemps le stade de l'improvisation. On sait désormais faire autre chose que de l'humanitaire et de l'urgence. On sait redessiner de la ville, redessiner après une catastrophe les terrains, les zones, les infrastructures. C'est ça ce que vous nous dites, Stéphane.
Alors, on sait, c'est difficile. En revanche, ce qui aujourd'hui concentre énormément d'efforts, c'est cette idée de reconstruire mieux et d'éviter de reconstruire à l'identique. Il y avait beaucoup de mécanismes qui poussaient à reconstruire aux mêmes endroits les mêmes choses. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la bonne façon de faire et qu'il faut faire mieux. En même temps, on sait aussi que c'est difficile. Cynthia, en France, il faut se rappeler que l'idée, c'était de ne pas reconstruire environ 800 maisons. C'est minuscule par rapport à tout cet enjeu qu'on a au Bangladesh, aux Philippines. Et pourtant, qu'est-ce que ça avait été difficile politiquement et en pratique de faire ce travail. Donc, c'est pour ça que reloger les gens, les faire bouger, c'est toujours extrêmement compliqué et difficile. Et c'est ça qui fait que c'est aussi important dans les endroits qui sont en croissance de conduire le développement vers les zones sûres. Si on se réveille dans 20 ans, on aura 20 ans de nouvelles constructions à essayer de reloger et reconstruire, ce sera extrêmement difficile. Donc il y a une urgence dans ces zones qui croissent très très vite.
Ouais. Il est 18h44 avant de rejoindre les Pays-Bas et de poursuivre donc cette émission spéciale consacrée à la montée des eaux. George Harrison sur Inter, While My Guitar Gently Weeps. Sweeping, still my dog. Voilà, vous l'entendez, c'est la version live de While My Guitar Gently Weeps de George Harrison. C'était un concert le 1er août 1971 au Madison Square Garden de New York. C'est le premier véritable concert de charité de l'histoire du rock qui a été organisé suite à un énorme cyclone qui avait dévasté en novembre 70 le Pakistan oriental et causé la mort de 300 à 500 000 personnes. Stéphane Algard, c'est une date importante aussi, hein, ce novembre 70-là. Pour quelle raison dans l'histoire des catastrophes climatiques?
Donc les gens qui s'intéressent aux impacts des catastrophes naturelles sur les relations internationales et la géopolitique citent souvent ce cyclone comme ayant participé aux tensions qui ont mené le Pakistan oriental à devenir le Bangladesh et à se séparer dans des conditions de violence assez importantes. Le cyclone, évidemment, n'est pas la cause, mais la catastrophe a attisé les tensions et a mené à des conflits.
Nicolas Demorand, Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et pour lutter contre le réchauffement climatique, certains pays sont mieux armés que d'autres. Sandy Dauphin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous revenez des Pays-Bas, la montée des eaux menace aussi ce petit pays très dense dont un quart de la surface est située sous le niveau de la mer. Mais à la différence du Bangladesh et des Philippines, au royaume des digues et des polders, on repousse l'eau depuis la nuit des temps. Le pays possède l'expertise, la gouvernance et les moyens financiers pour s'adapter.
Oui, je vous emmène à la plage, au bord de la mer du Nord. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de La Haye, à Katweg, une station balnéaire menacée par l'érosion.
Là, si on regarde le littoral, on voit une église sur le bord de la mer. Dans l'histoire, cette église est au milieu du village. On peut dire qu'à peu près chaque siècle, la mer grignotait de 100 mètres le village. Donc il a été nécessaire de prendre des mesures.
Sami Wassin est chargé de mission au ministère néerlandais de l'infrastructure et de l'environnement.
On a avancé la plage d'environ 200 mètres vers la mer et on a construit une digue dure qui a été recouverte de sable. Donc c'est un aspect un peu de dune. Mais le plus important, c'est que la digue solide protège contre les événements les plus importants.
Voilà, c'est un rempart contre la mer, camouflé en dunes de sable, histoire de se fondre dans le décor de cartes postales et ne pas nuire au tourisme. Franck tient un restaurant au bord de mer et il doit s'adapter.
La plage était à environ 2 mètres d'ici. On avait vu sur la mer, on pouvait mettre les pieds dans le sable, mais plus maintenant. Ils ont construit un mur contre la mer. Ils l'ont recouvert avec une dune, mais c'est toujours un mur. Donc il faut faire avec. On va s'adapter. On va reconstruire le restaurant de l'autre côté de la digue, sur la plage. J'aurais pu me battre contre cette digue, mais ça ne sert à rien. L'important, c'est que le pays reste au sec.
Mais aux Pays-Bas, le danger ne vient pas seulement de la mer, il vient aussi de l'intérieur des trois grands fleuves qui traversent le pays. Le Rhin, la Meuse, l'Escaut.
Oui, les fleuves sont surveillés comme du lait sur le feu, surtout depuis les crues records de 1995, quand il a fallu évacuer 250 000 habitants le long du Rhin et de la Meuse. Robert Slomp, spécialiste des digues, travaille à l'agence néerlandaise de travaux publics, la Rijkswaterstaat, un puissant bastion d'ingénieurs.
Avec le changement de climat, il y aura 20% plus de pluviométrie en amont, donc les fleuves vont avoir plus de crues et plus souvent des crues. On risque d'avoir l'inondation si on ne fait rien. Donc nous, on doit anticiper ce changement de climat en rehaussant les digues et en même temps en élargissant les fleuves.
Mais on ne peut pas élargir les fleuves partout.
Non, on fait ça là où il n'y a pas trop de population.
En gros, on desserre le corset des fleuves, on déverse le trop-plein pour éviter des goulets d'étranglement en amont. Une nouvelle technique qui a du mal à passer au pays des polders où les habitants ont passé des siècles à assécher la mer pour la cultiver, comme ici près de Dordrecht sur un bras du Rhin.
Les gens ici doivent sacrifier leur terrain agricole pour les gens en amont. Et ça, pour beaucoup de gens, c'était difficile parce que beaucoup de ces polders ont été construits à la main. Quand on a lancé le projet il y a 15 ans, on a voulu exproprier tout le monde qui habitait ici pour pouvoir dépolderiser. Mais après, les gens ont résisté et le ministre a promis que les gens qui veulent rester ici peuvent rester ici en sécurité. Mais les gens qui veulent quitter, ils vont être remboursés à 100% pour pouvoir quitter.
Mais alors, on peut rester sous quelles conditions?
On peut rester ici si tu vas vraiment vivre en sécurité, donc sur une maison surélevée où on va parfois le protéger avec une petite digue encore pour être sûr qu'il n'y aura pas de vagues qui vont casser la maison.
Du coup, c'est assez insolite. On voit des maisons perchées sur des monticules. Marc est étudiant, il habite l'une de ces maisons avec ses parents.
Mon grand-père a toujours travaillé dans les polders pour les assécher, mais d'un autre côté, c'est bien qu'on donne plus d'espace aux fleuves pour éviter les inondations et ce genre de choses. Aux Pays-Bas, on a toujours combattu l'eau, et la plupart du temps, on gagne. C'est grâce à la technologie d'aujourd'hui et aux gens intelligents qui font ces trucs. Je leur fais confiance. Je n'ai pas peur de l'eau.
Je fais confiance aux ingénieurs, je n'ai pas peur de l'eau, dit ce jeune néerlandais. Il faut dire que les Pays-Bas ont toujours mené des travaux pharaoniques, sans dit, pour lutter contre l'eau, précisément.
Ouais. Le pays a été traumatisé en 1953. Une tempête meurtrière submerge la côte sud-ouest, la Zélande, près de 2000 morts. Dans la foulée, les autorités lancent le plan Delta. 40 ans de travaux, des milliers de kilomètres de digues, des écluses, des barrages gigantesques pour protéger les estuaires. Un système performant qui va servir de base à un tout nouveau plan de bataille, le plan Delta 2015. Il prévoit 1 milliard d'euros par an pour s'adapter au changement climatique. Jos Van Alphen est conseiller spécial auprès du commissaire du programme Delta.
Le changement climatique pourrait être une menace pour les Pays-Bas, mais nous sommes technologiquement et financièrement capables de nous adapter. Et nous avons le temps, car c'est un processus graduel. Donc, si l'on compare à nos programmes précédents, le plan Delta n'est pas une réaction à un désastre, mais il tente de l'éviter, de l'anticiper.
Mais pas question de pécher par excès de confiance. Le gouvernement tente de sensibiliser les jeunes néerlandais qui n'ont plus la notion du danger de l'eau. Exemple, cette application pour smartphone lancée récemment. Un clic et l'on voit jusqu'où peut monter le niveau de l'eau chez soi. Si par exemple une digue cède, et dans certains quartiers de Rotterdam, on voit que l'eau pourrait monter jusqu'à 6 mètres.
Merci Sandy. Stéphane Algat, c'est un modèle, les Pays-Bas.
Alors c'est un modèle, mais je dirais que ce n'est pas forcément un modèle quand on regarde les technologies. Et quand on parle des Pays-Bas, on a tendance à regarder leur digue, leur système, la partie ingénierie, qui effectivement est très performante. Mais je pense que là,
ça force le respect quand même.
Ça force le respect, c'est impressionnant. Mais là où ils ont été vraiment impressionnants en 1953, après la grande inondation, c'est du côté institutionnel. Alors, il n'y a pas de choses à montrer, il n'y a pas de photos, etc. Mais leur première réaction, au lieu de tout de suite parler de construire des digues, ça a été de changer leurs institutions et changer les lois pour faire en sorte de créer la Delta Commission qui est en charge de gérer les inondations, de créer dans la loi un niveau de risque acceptable pour la population et que cette Delta Commission était chargée de mettre en œuvre. Et l'ingénierie est arrivée après, une fois que ce système institutionnel a été mis en place. Et quand aujourd'hui on pense à répliquer l'expérience hollandaise dans le reste du monde, il faut faire très très attention parce qu'il faudrait répliquer les institutions avant de répliquer la technologie. Parce que le risque de la méthode hollandaise, c'est que ces digues et ces protections, une protection, ça peut toujours se détruire, ça peut toujours lâcher. Et ça demande une maintenance sans faille. Et la question dans des pays à revenus plus faibles, avec des institutions moins solides, c'est, une fois qu'on les a construits, est-ce qu'on est capable de les maintenir? Et on voit bien, dans les pays en voie de développement, le vrai défi, c'est pas de construire les infrastructures, c'est la maintenance. Et donc, il faut vraiment regarder ce qu'ils ont fait en termes d'institutions, c'est là que se trouve l'innovation.
Et notamment, ils ont des agences de l'eau qui ont été créées bien avant l'État central, qui, au plan local, lèvent un impôt et qui s'occupent des digues.
Ça, c'est important, oui, comme structure administrative.
Il y a des choses qu'on peut faire aussi quand un sujet est très très haut dans l'agenda. En Hollande, la gestion de l'eau, ce n'est pas quelque chose de très secondaire auquel les gens ne vont pas s'intéresser. C'est un sujet important, il y a des chiffres gigantesques en termes de ressources investies dans le domaine. Et donc, quand c'est important comme ça, on peut faire beaucoup plus confiance dans la maintenance, dans le suivi, etc. Dans les endroits où la gestion des inondations est secondaire, c'est beaucoup plus difficile de répliquer ce modèle.
Merci à tous les quatre, nos trois reporters, Julie Pietri, Olivier Poujade, Sandy Dauphin et Stéphane Algat de la Banque mondiale pour cette première émission. Il y en aura d'autres sur l'antenne de France Inter consacrée au climat. Dans deux minutes, le journal.